Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. CBD, trois lettres dont on va reparler en Europe. Le cannabidiol est un extrait de cannabis dont on ne cesse de vanter les vertus relaxantes. Mais attention, il ne s'agit pas d'un stupéfiant. Pour être un peu technique, la teneur en THC, la molécule psychotrope, ne doit pas dépasser 0,2%. L'Organisation mondiale de la santé considère avec le plus grand sérieux le CBD. Et la Cour de justice de l'Union européenne a estimé en novembre dernier que la France ne pouvait pas en interdire la vente. En résumé, ce n'est pas une drogue et il faut respecter la libre circulation des produits en Europe. Résultat, les magasins de CBD fleurissent comme des petits pains. C'est le cas en Espagne, malgré le flou juridique qui entoure encore sa production agricole. Reportage signé Diane Cambon.
Dans le quartier bohème de l'Alameda à Séville, en Andalousie, Luciano a ouvert il y a 6 ans la première boutique d'Espagne spécialisée dans la vente de produits à base de chanvre. On y trouve des aliments comme des pâtes au chanvre, des sacs en toile de chanvre et des produits cosmétiques, mais aussi et surtout des huiles et des fleurs de CBD. Le cannabis, cannabidiol, plus connu sous le nom de CBD, ne contient pas la fameuse molécule THC qui a des effets psychotropes et dont la consommation est illégale. Et c'est la raison pour laquelle il rencontre de plus en plus de succès, comme le confirme Luciano.
En ce moment, ce qui se vend le plus, ce sont les fleurs de CBD. En 2 ans, on connaît un véritable boom en Espagne. Le CBD a un large éventail de vertus thérapeutiques. Cela calme le stress, l'anxiété. Cela aide à mieux dormir, mais c'est aussi un anti-inflammatoire. Et j'ai vu qu'avec la pandémie, la consommation a augmenté. Cela calme l'anxiété des gens qui ont perdu leur travail, ou aussi pour ceux qui arrêtent de fumer, c'est un substitut très bon au tabac. On peut le prendre en infusion ou en goutte ou bien dans une vaporette.
Sur une étagère sont exposés un assortiment de petites pochettes de couleur en aluminium aux noms évocateurs Blue Dream, Juanita la Lagrimosa, Pure Red.
Une pochette comme celle-ci vaut 15 euros les 3 grammes ou 20 euros les 5 grammes. Et il y a une quarantaine de variétés différentes. Ce qui me surprend le plus, ce sont les acheteurs d'âge mûr de 60 ou 70 ans qui viennent ici très bien informés de tout. Souvent, ils souffrent d'arthrose ou de rhumatisme. Ils savent exactement ce qu'ils veulent, mais ils sont ouverts aussi pour tester de nouveaux produits.
Mario est un client beaucoup plus jeune. Il a décidé de passer au CBD, surtout pour essayer de décrocher du cannabis.
Cela faisait des années que je fumais du cannabis, celui qu'on achète en toute illégalité à des revendeurs dans la rue. Mais maintenant, cela fait 1 an que je suis passé au CBD. Je fais des études, je travaille, donc je préfère fumer un produit plus naturel qui n'a pas de THC et qui ne va pas me faire planer ou me renverser la tête.
En réalité, le cannabis CBD contient du THC, la molécule qui sert à planer, mais en très faible quantité. Elle ne doit pas dépasser les 0,2%. Marina est agricultrice de chanvre à usage industriel. Au nord de l'Estrémadure, une terre qui regorge d'eau et baignée par le soleil, elle cultive depuis 3 ans le cannabis CBD et a doublé son exploitation.
Nous, en tant que cultivateurs, nous avons désormais 5 hectares, mais avec d'autres agriculteurs, on a formé une coopérative et au total, on dispose de 20 hectares. Cette année, beaucoup de gens ont voulu se mettre à cultiver du CBD. Il y a un véritable boom, mais attention, car beaucoup de gens pensent qu'ils vont devenir riches. Mais c'est une culture qui demande beaucoup de précision, qui oblige à faire souvent des analyses de la plante et de la terre. Cela demande une terre sans pesticides, totalement écologique, et surtout, il ne faut pas dépasser 0,2% de THC. Et c'est très facile de voir monter le taux de THC, la substance psychotrope.
L'autre difficulté de la culture du CBD, c'est le flou légal qui entoure la production du chanvre. La seule loi en vigueur date de 1971 et permet la culture à des fins industrielles. Pour Marina, cette insécurité juridique est source de problèmes.
Obtenir une licence, c'est très difficile. Nous sommes sans protection légale. Il manque une régulation et il est très difficile d'avoir une réponse claire de l'administration. Du coup, ça pose des problèmes au moment des inspections. La garde civile ne connaît pas bien la législation en vigueur et cela arrive que la police vous confisque toute votre production et même vous emmène au poste pour y passer une nuit en préventive, alors que vous ne cultivez pas de la drogue. On vit dans l'incertitude durant tout le processus de la culture, sans parler des possibles cas de vol sur notre exploitation. Les voleurs essayent ensuite de revendre le produit au marché noir en le faisant passer pour de la marijuana.
Les petits producteurs comme Marina doivent aussi lutter pour exister sur un marché dominé par le lobby des géants de l'industrie pharmaceutique. En Espagne, 5 industries détiennent la majorité des licences autorisées par l'Agence espagnole des médicaments et produits sanitaires. Actuellement, on compte 20 000 hectares de cannabis CBD, mais d'ici quelques années, la production pourrait augmenter de 400% selon le secteur.
Aux côtés du cannabis light, comme on l'appelle, qui favoriserait l'endormissement, soignerait les douleurs, aiderait à lutter contre la dépression ou la dépendance, il y a aussi le cannabis thérapeutique. Mais attention, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. En Serbie, il est interdit d'en consommer au risque de se voir infliger une peine de prison. Les explications de Simon Rico.
Dragoljub Mrđić souffre d'épilepsie et se soigne depuis des années avec de l'huile de cannabis. Le quinquagénaire l'assure, depuis, il n'a plus de crise. Mais cette consommation thérapeutique lui a déjà valu plusieurs ennuis avec la police et même avec la justice de son pays. Il vient de faire appel d'une condamnation à 3 ans et demi de prison ferme pour possession et culture illégale de marijuana. Pourtant, Dragoljub Mrđić a officiellement demandé dès 2015 l'autorisation d'utiliser du cannabis à usage médical pour son traitement, une démarche qu'il a entamée sur les conseils de l'IRCA, une association serbe de soutien aux personnes atteintes de maladies graves et se soignant au chanvre indien. Pour le moment, le cannabis est en effet considéré en Serbie comme une drogue de 4e catégorie, aux côtés entre autres de l'héroïne et de la cocaïne. En fonction de la quantité saisie par la police, les contrevenants sont passibles d'une peine de prison ferme de 10 ans maximum pour possession de cannabis ou de produits dérivés et de 2 à 8 ans pour sa culture. Mais les choses ont commencé à bouger depuis que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a reconnu fin 2020 les propriétés médicinales de cette plante. Le 20 avril dernier, le ministre serbe de la Santé, Zlatibor Lončar, a fini par annoncer que Belgrade allait prochainement se conformer à cette position internationale.
Le secteur des producteurs et des vendeurs de CBD est dans l'expectative. Quelles seront les législations nationales? Les lignes bougent lentement, mais bien souvent, c'est le flou. En Allemagne, les multiples contrôles policiers avec confiscation de la marchandise mettent en difficulté commerciale de nombreuses enseignes. À Berlin, Julien Méchessy a rencontré le responsable juridique de l'une d'elles.
Ça, tu peux mettre sous ta langue, tu fais du spray. Des effets pour la santé aussi, le CBD, ça aide dans la bouche. En particulier pendant l'hiver, ça m'a bien aidé pour rester dans une bonne humeur.
Ingmar Datte est le directeur juridique du groupe Sanity, l'un des acteurs majeurs du CBD en Allemagne et en Europe. Il nous accueille dans la boutique phare de la marque, fermée en ce moment pour cause de pandémie. Grand auteur de plafonds, présentoirs qui rappellent des magasins de luxe où trônent des crèmes, des bonbons, du thé, des produits qui contiennent tous du CBD.
Pas mal des consommateurs ont toujours l'imagination de cannabis comme une drogue. Et on veut éviter tout cela car la CBD a pas mal des potentiels médicinaux qui aident les gens dans la vie quotidienne. L'un de nos fondateurs dit toujours le dernier siècle était le siècle du caféine et notre siècle serait le siècle du cannabis et les cannabinoïdes.
Mais avant que cette prophétie ne puisse se réaliser, les obstacles à franchir sont encore nombreux, notamment de la part des forces de l'ordre qui multiplient les descentes chez les vendeurs de CBD. Dans leur viseur, la fameuse limite de 0,2% de THC. Pour vérifier que cette limite soit bien respectée, la marchandise peut ainsi être confisquée pendant plusieurs semaines jusqu'à la réalisation des tests en laboratoire. Des délais très longs qui peuvent avoir de graves conséquences pour les commerces. L'entreprise Digmar Date essaie tant bien que mal d'y faire face.
Notre idée, c'est d'avoir les produits avec une plus haute qualité que les autres concurrentes. Du coup, c'est pour ça qu'on travaille vraiment bien ensemble avec des laboratoires renommés qui testent régulièrement tous les produits dans tous les stages du produit. Et comme ça, on peut bien garantir qu'on a un taux de THC beaucoup, beaucoup moins que les taux officiels par rapport à la loi.
Au mois de mars dernier, une décision de la Cour fédérale de justice a apporté un peu plus de clarté. La Cour devait statuer sur l'affaire dite du Hanf Bar, une boutique qui vend des salades, des boissons énergétiques à base de chanvre et des infusions de CBD. Le Hanf Bar a fait l'objet de multiples perquisitions pour un supposé trafic de stupéfiants, alors qu'aucun produit ne dépassait les 0,2% de THC. Condamnés à plusieurs mois de prison pour la vente de fleurs de CBD, les gérants ont alors fait appel à la plus haute instance juridique du pays. Le verdict rendu a été accueilli comme un énorme soulagement pour tout un secteur économique. La Cour a déclaré que ce commerce n'avait rien d'illégal et surtout que l'argument de possibles abus qui pourraient conduire à des intoxications n'était pas recevable. L'affaire a été renvoyée en première instance pour être rejugée. Un petit pas vers une normalisation de ce commerce, mais il reste de nombreuses barrières.
Et c'est vraiment difficile de trouver une banque. Heureusement, nous avons PayPal par exemple, mais c'était vraiment une tâche assez difficile, non seulement en Allemagne, mais aussi dans notre filière à Londres, de trouver un compte bancaire là-bas. C'est vraiment pas facile de convaincre tout le monde que finalement un produit complètement légal, ça va toujours avec des longues discussions avec des juristes, mais à la fin du compte, nous, on a vraiment franchi tous ces défis.
Produit encore peu connu, le CBD souffre toujours d'une image faussement associée aux stupéfiants.
Le CBD, il y a le mot du cannabis là-dedans, et du coup, tout le monde pense au premier moment où c'est peut-être un stupéfiant, mais c'est pas un stupéfiant. Et après, aux États-Unis, au Canada, ils sont déjà des grandes entreprises avec des valorisations de milliards et milliards d'euros. Et ici, en Allemagne et en Europe, en général, le cadre juridique est vraiment compliqué pour d'avoir vraiment un success story.
À l'image d'Igmar Date, les acteurs du CBD se battent pour une législation claire à l'échelle européenne, au risque de voir à terme les géants nord-américains écraser le marché.
Spéciale dédicace à tous les fumeurs de CBD.
En Suisse, on autorise déjà le cannabis thérapeutique, mais la Confédération veut aller plus loin et voir s'il serait possible de légaliser le cannabis récréatif cette fois. Des essais pilotes ont été lancés. Objectif, comprendre si les avantages de la législation dépassent les inconvénients. Mais pas question pour autant de suivre le modèle des Pays-Bas et de leur coffee shop. L'expérience va être strictement encadrée. À Genève, Jérémy Lanche.
Plusieurs villes se sont dit intéressées pour mener ces tests, notamment Zurich, Genève, Berne ou encore Lausanne. 5000 personnes maximum par localité pourront participer à l'essai. Il faudra qu'elles prouvent qu'elles habitent le canton, qu'elles sont majeures et qu'elles consomment déjà du cannabis. Elles seront par ailleurs suivies par un médecin pendant toute la durée de l'essai, prévue pour 5 ans. La teneur en THC, la substance psychotrope du cannabis, ne pourra pas dépasser les 20% et les acheteurs ne pourront pas en acquérir plus de 10 grammes par mois dans des pharmacies ou des magasins spécialisés avec interdiction de le revendre. Des conditions draconiennes qui font dire à certains qu'on se trouve plus dans le cadre d'un essai clinique que d'un essai grandeur nature. Difficile en effet dans ces conditions de savoir quelles pourraient être les conséquences de la légalisation sur la population en général, notamment sur ceux qui ne fument pas du cannabis. Il s'en écoulerait jusqu'à 60 tonnes chaque année en Suisse. C'est 85% de toutes les drogues consommées chaque année dans le pays. Court-circuiter le marché noir pourrait donc représenter un progrès de santé publique pour les tenants de la légalisation. Encore faut-il s'en assurer. Les essais tombent en tout cas au bon moment, à l'heure où la Suisse est confrontée, comme d'autres pays européens, à l'apparition du cannabis de synthèse, une substance potentiellement mortelle et qui s'échange déjà sur le marché noir, souvent à l'insu des consommateurs qui pensent acheter du vrai cannabis.
We're the same as shoes and I will hold Bill the scene in a hurry, maybe get the color boss dying.
Et pour notre chronique en un mot, nous partons en Italie pour parler de l'Italian English, un mot qui désigne à quel point l'anglais s'est infiltré dans la langue italienne. Qu'il s'agisse du milieu du travail, du quotidien ou même de l'école, les Italiens raffolent de ces mots anglais prononcés à l'italienne, comme l'a constaté notre correspondante à Milan, Franceline Beretti.
Quand la directrice de l'école de mon fils m'a demandé de payer la cantine, elle évoquait le « catering » en anglais. Sauf qu'elle disait « catering » et que je me suis demandé pendant de longues minutes qui était cette Catherine qui nourrissait les enfants. Cette utilisation récurrente et approximative de termes anglais insupporte Anna Maria Testa. La spécialiste en communication a même consacré une conférence à cette invasion linguistique.
On dit « call » au lieu d'appel téléphonique, on dit « location » à la place de lieu de rencontre. On dit « competitor » et « compilation », on dit « customer care » et « day by day ». Dans les bureaux, on peut entendre des choses du genre « il faut prévoir une conference call pour le fine-tuning de la consumer satisfaction » avec la business unit. Alors qu'il suffirait de dire « il faut appeler Pippo, Franco, Gennaro pour améliorer le service client ».
Pourquoi les Italiens se laissent-ils submerger par l'anglais ? Est-ce de la flemme ? Du snobisme ? Une chose est sûre, ça n'est pas parce qu'ils parleraient bien la langue. Selon l'étude d'un organisme international qui enseigne l'anglais, les Italiens sont parmi ceux qui le maîtrisent le moins bien en Europe. Ils forment le trio des derniers, avec l'Espagne et la France. Une vidéo fait d'ailleurs rire toute la péninsule depuis quelques années. On y voit Matteo Renzi, alors président du Conseil, se battre avec l'anglais dans une réunion internationale. Concentrez-vous bien.
My mother who cry in the TV when she feeling with the she felt the Berlin walls destroyed by the people.
Si vous êtes très fort et rempli de bonne volonté, vous aurez peut-être saisi que la mère de Renzi a pleuré devant sa télé en voyant les Allemands détruire le mur de Berlin.
Berlin walls.
Les Italiens sont comme leurs responsables politiques. Ils ne maîtrisent pas bien l'anglais, ce qui ne les empêche pas d'en utiliser de nombreux mots. Patrizia Minotti a créé une école de langue. Elle rappelle que l'Italie a connu des influences culturelles très diverses dans son histoire. L'arrivée de l'anglais n'est que la suite logique.
Nous avons une quantité énorme de mots étrangers. Déjà à partir du monde grec, calligraphie, métaphore, grammaire, puis tout l'univers scientifique et astronomique qui nous vient du monde arabe. Et aussi en cuisine, gingembre, sirop, safran, et encore le monde celte. Les Longobards nous ont laissé tout un vocabulaire lié à l'agriculture, à la nature.
L'idée qu'il faudrait protéger la langue de son anglicisation, comme on l'a par exemple en France, n'est pas bien vue en Italie. Elle est même liée à une période précise de l'histoire, le fascisme. Patrizia Minotti.
C'était interdit d'utiliser des mots étrangers, et même de donner des noms étrangers aux Italiens. Ils devaient exclusivement être nationaux. Walter, non. Il fallait dire Gualtiero. Même les bars, on devait les appeler mesquite ou là où on boit. T'imagines ? Pour cocktail, il fallait dire la boisson harlequin. On tombait vraiment dans le ridicule.
La bataille de certains pour ré-italianiser la langue est donc perçue comme un combat archaïque, voire douteux. D'autant qu'utiliser des mots anglais, selon la professeure, ça fait chic.
Il y a aussi des raisons un peu snobs, car il faut bien dire que les Italiens sont très provinciaux. Alors évidemment, si ça vient de l'étranger, c'est plus important, plus beau, plus intéressant. Voilà.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain.